Vision d'histoire.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Galilée, bonjour et bienvenue à Vision d'Histoire. Je m'appelle Martine Dumais, il me fait plaisir de vous retrouver comme à chaque semaine. Aujourd'hui, nous poursuivons notre conversation avec M. Alain Laberge, historien, professeur et directeur du département d'histoire de l'Université Laval. Il nous entretenait de ses recherches sur la Nouvelle-France et de façon plus précise sur la question du système seigneurial. Bonjour, M. Laberge.
Bonjour.
Donc, la semaine dernière, on avait évoqué cette question du régime seigneurial. Pour connaître mieux les seigneuries en Nouvelle-France, quelles sont les sources d'informations pour les historiens?
Elles sont assez nombreuses. Il y a bien sûr les actes de concession des seigneuries elles-mêmes que le roi donnait aux différents seigneurs. Ce sont des documents, évidemment, fondateurs, disons, de chacune des localités seigneuriales. Les actes de concession des terres encensives que les seigneurs faisaient aux habitants, qui sont extrêmement nombreux. C'est là qu'on retrouve tous ces droits puis toutes ces choses-là. Il y a aussi, bien sûr, des documents seigneuriaux plus spécialisés comme ce qu'on appelle les aveux et dénombrements. Dans le droit seigneurial, dans le droit féodal, il existait une opération très importante qui devait se faire notamment soit quand le roi mourait ou, on voyait souvent ça, c'était la présentation de la foi et hommage. Hein. Chacun des seigneurs devait finalement reconnaître symboliquement sa subordination au suzerain qui était le roi. Et la foi et hommage était l'illustration symbolique de ça, genou en terre, sans chapeau, tout ça, sans épée. Et 40 jours plus tard, le Seigneur devait remettre à l'État un aveu et dénombrement. Ça le dit, donc il avouait ce qu'il détenait sur chacun de ses fiefs et il dénombrait les habitants, leurs possessions, etc. Ce sont des documents d'une précision incroyable. On retrouve bien sûr le nom des habitants, les dimensions des terres, où elles se trouvaient, ce qu'il y avait dessus, en labour, les bâtiments, tout ça. C'est vraiment une source extraordinaire que moi, j'ai travaillé de façon approfondie avec Jacques Mathieu, notamment, et une équipe qu'on avait là, dans les années 90.
Et donc, cette étude des documents que vous venez de mentionner nous permet d'avoir une autre image, d'une certaine façon, des seigneuries. C'est un petit peu ce qu'on évoquait la semaine dernière.
Tout à fait. C'est une image toute en évolution et en phase de développement. Les premières années sont ce qu'on appelle la phase pionnière, où il y a vraiment rien de très, très, très organisé. C'est très rudimentaire. La présence du Seigneur n'est même pas assurée. Présence du moulin, comme on a dit la semaine dernière, plutôt rare finalement, très, très peu répandue. Peu de personnes, peu de familles, donc une entraide communautaire extrêmement forte compte tenu de ça. Et comme on verra tantôt, là aussi, des services beaucoup moins répandus, notamment le service évidemment religieux. Ensuite, on voit avec le passage des générations, on voit des seigneuries mieux constituées, mieux peuplées. Le premier rang est tout développé. Les exploitations sont autosuffisantes. Elles produisent des surplus. Elles sont même habitées là, par des familles qui résident dans des maisons de pierre, bien souvent, où il y a beaucoup de bâtiments. Toute chose qui contraste avec la simplicité des premières années. Et évidemment, tout ça se poursuit là, à travers le 18e siècle. Et on en arrive au 19e à des endroits où il n'y a plus de terre. C'est saturé. Il y a plus dans les... S'il reste encore des rangs qui sont vides, ce sont des rangs qui sont inexploitables. Prenez n'importe quelle seigneurie. Dès que vous arrivez sur la rive nord, dans les contreforts du Boulis canadien, ou sur la rive sud, sur les contreforts des Appalaches, vous avez des terres qui sont d'un rapport beaucoup moins intéressant. Ce sont des terres à bois. Donc, on arrive à ce moment-là, vers les années 1800 à peu près.
Et donc, on a vu se mettre en place ce système seigneurial. Aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup à la question des paroisses rurales. Donc, le clergé, l'Église et les paroisses rurales. Pour ces paroisses rurales-là, on se base sur le modèle français, j'imagine, encore une fois.
Effectivement, effectivement. On n'a rien inventé. Sauf que vous allez voir qu'il y a eu quand même des tentatives assez originales de procéder. Je vous explique un petit peu. En fait, la paroisse elle-même est une vieille institution qui date là, des temps immémoriaux. Et elle était en voie d'être réformée en Europe avec le Concile de Trente, hein, au 16e siècle. Donc, le Concile de Trente a vu qu'il y avait des problèmes avec les paroisses, problèmes avec la formation du clergé paroissial, et a voulu améliorer les choses. Donc, là, est venu un adage, hein, un curé, une église, une paroisse. Parce qu'avant, il y avait des ecclésiastiques qui avaient plusieurs églises, plusieurs paroisses. Et bien, ils n'étaient pas là pour encadrer dans chacune d'entre elles. Donc, il y avait plein de paroisses où il y avait un peu un abandon. Donc, c'est ce que le Concile de Trente a voulu résoudre. Et pour ce faire, cette espèce de filiation, une église, un curé, une paroisse. Et ça, c'est ça qui va arriver, qui va être mis en application un peu en Nouvelle-France, jusqu'à un certain point. C'était finalement la théorie. Mais c'est un modèle effectivement français, mais ça va prendre quand même du temps avant de s'installer. Je vous explique. Finalement, avant l'arrivée de Monseigneur de Laval, il ne se passe pas grand-chose parce que, un, il n'y a pas d'évêque. Deux, le Canada est un pays de mission qui relève de Rome. Et Rome n'érige pas de paroisse. Donc, tant qu'il n'y a pas un évêque ici ou que le Canada n'est pas rattaché formellement à un évêché en France, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, il ne pouvait pas avoir de paroisse en tant que tel. Il y avait des services paroissiaux, bien évidemment. On consignait la naissance des enfants, les mariages des couples et les sépultures des gens qui décédaient. Il y avait la messe, mais il n'y avait pas d'organisation en tant que tel. C'est M. Laval qui va se mettre dans l'idée de faire ça. Il va ériger les premières paroisses, mais il va surtout vouloir mettre en place un système tout à fait différent de celui de l'Europe. Lui, il a connu, finalement, il connaît le modèle européen, le modèle français, et il veut un peu s'en éloigner pour revenir, on pourrait dire, à une église un peu plus primitive, dans le bon sens du terme, dans une église plus simplifiée. Et pour lui, le développement des paroisses, ça passait par le support du séminaire. Donc, on ne peut pas comprendre la vision de Monseigneur Laval si on ne comprend pas le lien avec le séminaire de Québec. Séminaire de Québec qu'il va fonder en 1663. Pourquoi? Pour former un clergé paroissial, évidemment. Et donc, ce que M. Laval voulait faire, c'était évidemment d'ériger des zones, hein, des paroisses en tant que telles, mais où il n'y aurait pas de curé comme tel, où le curé ne serait pas inamovible. Parce qu'en France, le principe, c'était des cures fixes, donc des territoires précis, et des cures inamovibles, dans le sens que le curé qui est dedans, on
il est à vie, là?
Il reste là, exactement, okay, pour aller dans le sens du Concile de Trente, qui voulait avoir un pasteur présent, omniprésent, encadrant là, son
ses
troupeau,
ouais,
tout ça, exactement. Donc, Monseigneur Laval se dit, c'est pas une mauvaise idée, ça, mais l'inamovibilité, c'est pas une bonne chose. Et lui, il s'est dit, le séminaire va devenir le quartier général du clergé paroissial. Donc, il y aura des paroisses. Le séminaire va dépêcher dans ces paroisses-là des ecclésiastiques. La dîme qui vient avec ça va être payée au séminaire qui va redistribuer l'argent entre tous les ecclésiastiques. Un processus de centralisation extrêmement important et où le séminaire joue un rôle crucial.
Toute une réflexion aussi derrière ça.
Absolument, absolument. Et c'était une façon pour lui, c'était une façon, évidemment, il faut bien le dire, de conserver une mainmise très, très grande sur le clergé. Hein? Parce qu'un curé inamovible devient, en quelque sorte, un peu indépendant de son évêque, puisqu'il est là, il a sa place et on ne peut pas le bouger. Donc là, Monseigneur Laval,
il n'y a pas de reddition de compte.
Voilà. Alors, de cette façon, Monseigneur Laval pouvait adapter les capacités des ecclésiastiques aux besoins puis aux défis qui se posaient dans l'une ou l'autre des paroisses. Donc, ça va faire un temps, ça, mais ça va tout de suite être contrecarré parce que l'État voyait pas d'un bon œil cette histoire-là. L'État se disait, ce que les gens veulent, c'est pas vraiment ça. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un curé. Parce que dans le peuplement seigneurial dont on a déjà parlé tantôt et la semaine dernière, hein, pour les habitants, les années pionnières, ce sont des années de difficultés. C'est compliqué, ils sont isolés et les services religieux qu'ils reçoivent, c'est comme un peu comme une bouée de sauvetage, si on veut. Et la venue d'un missionnaire, c'est très important, mais mieux, la présence d'un curé, c'est formidable. Et c'est ça l'objectif des gens dans les campagnes, au plus vite avoir un curé pour pouvoir bénéficier des services religieux.
Alain Laberge, nous parlions donc de la situation des paroisses rurales, des débuts sous Monseigneur de Laval. Quand on pense à des paroisses, après ça, il y a un autre niveau d'intervention qui va être le diocèse qui apparaît dans le décor.
Effectivement. Le diocèse de Québec est finalement confirmé en 1674. Monseigneur de Laval devient le premier évêque. Et évidemment, il a donc toute cette gestion à s'occuper. Et la question paroissiale va être vraiment... Pour les évêques, Monseigneur de Laval et tous ceux qui suivront, ça reste quand même la question la plus épineuse. Hein? Le diocèse est immense. Il a une partie, évidemment, qui est toute reliée aux missions. Ça va au pays d'en haut, ça va aussi loin, même qu'en Louisiane. C'est immense.
Hein? C'est incroyable.
Hein? Les jésuites, le séminaire, au 18e siècle, ont des missions là, aussi loin là, que le bas Mississippi. C'est extraordinaire. Mais évidemment, le gros de leur attention est quand même tourne autour des besoins des paroissiens. Parce que la population augmente constamment. Et là, il y a un problème. Il y a un problème de fond en Nouvelle-France, c'est que la population, elle est petite. Elle est dispersée. Il y a du monde à Kamouraska, puis il y en a un peu partout. Là, ça va de Vaudreuil jusqu'à Rimouski. Il y en a partout. Ils sont peu nombreux. La densité est faible. Et évidemment, tout le monde veut un curé, comme j'ai expliqué tantôt, mais attention, il faut avoir les moyens de s'en payer un. Donc, ça prend un certain montant de dîmes pour pouvoir se payer les services et la présence d'un curé continuellement. Et très, très peu de paroisses sont en mesure de faire ça, parce qu'évidemment, en phase pionnière, la dîme, c'est très, très, très difficile à payer, même si elle est quand même modique au Canada, elle n'est que d'un 26e, alors que ça pourrait être facilement deux fois plus en France. Donc, là, le problème, c'est ça, c'est que les gens veulent un curé, ils ne sont pas capables de s'en payer un. Et autre problème, les effectifs du clergé ne sont pas assez suffisants. Parce que la population, on a dit, double aux 25-30 ans. Ce n'est pas du tout le cas des effectifs du clergé. Et du clergé, bien sûr, seulement masculin, parce qu'on comprend bien que les Ursulines ne font pas de ministère paroissial. Donc, ça veut dire que finalement, dès 1700, il y a un problème chronique. Là. Il y a trop de monde, trop dispersé, pour le nombre de prêtres disponibles pour encadrer.
Donc là, on a tout un défi. Là.
On a tout un défi. Et donc, ça veut dire que plusieurs ecclésiastiques se voient confier la responsabilité de plusieurs districts paroissiaux. Et ça veut dire que les gens n'auront pas, justement, ce curé, pas trop loin de leur porte, pas loin. Il peut y avoir une église, ça n'empêche pas qu'il y ait un presbytère, mais la présence même du curé... Il va peut-être être dans la paroisse à côté, il va venir desservir là, par mission et dire la messe le dimanche.
C'est assez curieux d'entendre ça. Donc, pour cette époque-là, quand on pense aujourd'hui, justement, on retrouve des situations semblables.
C'est effectivement le retour du balancier. Après avoir eu cette pénurie au 17e, 18e siècle, on va revenir avec une abondance à partir des 1850 jusqu'à la Révolution tranquille. Et là, on revient à la même situation. Évidemment, le contexte est un peu différent, mais tout de même, c'est assez curieux de le reconnaître. Donc, pour les évêques, c'est extrêmement compliqué de gérer tout ça parce que les communautés sont pas assez riches. Et le roi doit toujours donner un supplément pour aller combler la différence entre ce que la dîme produit comme revenu et ce qui est nécessaire pour faire vivre un curé. Et les curés sont jamais contents, bien sûr, du niveau de la dîme. Ils trouvent que c'est trop peu, que ça porte sur un nombre trop limité de produits. Ils voudraient l'avoir réparti sur un ensemble de cultures qui n'apparaissent pas, même sur les produits de l'élevage, mais ça va pas. L'État va constamment avoir, je dirais, comme objectif premier, le bien-être de la population, plutôt que que le confort ou la situation matérielle du clergé en tant que tel. Les paroissiens, en fait, vont passer avant les curés dans l'esprit de l'État qui surveillait tout ça avec attention, évidemment.
Et vers 1722, je crois qu'il y a un changement important qui se passe.
Ben là, il fallait, parce que là, c'est devenu complètement incroyable. Les frontières des paroisses étaient mal définies, parce que des frontières qu'on avait pu fixer, mettons, en 1690, du temps de Monseigneur de Saint-Vallier, avec le peuplement, ça peut être devenu tout à fait obsolète et inutile. Donc, il a fallu revoir tout ça au complet, et c'est une opération très intéressante que l'évêque aurait voulu mener seul, Monseigneur de Saint-Vallier, à cette époque-là, mais que l'État a voulu investir. Il s'est dit, vous ne ferez pas ça tout seul, on va s'en occuper. Donc, c'est une opération conjointe de l'État et de l'évêque. C'est très intéressant. Et ça va donner lieu à cette enquête formidable de 1721 du procureur général Mathieu Benoît Collet sur la commodité et l'incommodité des paroisses. C'est une expression, là, il y a un mot latin pour ça. Et donc, Collet a carrément arpenté chacune des paroisses de la vallée du Saint-Laurent, rencontré les gens, voir ce qui n'allait pas. Un peu comme une commission d'enquête d'aujourd'hui. Et il a fait des procès-verbaux et c'est là-dessus que s'est basé l'évêque et l'intendant pour redessiner complètement la carte paroissiale, revoir les frontières, vérifier où il allait mettre des curés, tout ça. Parce qu'il y avait des curés, mais ils étaient pas toujours des curés fixes et des curés là, absolus. Il y avait beaucoup de mouvances là-dedans. Donc, ils vont beaucoup organiser la chose. 1722, c'est une date extrêmement importante. L'enquête en 21, le rapport de l'intendant et de l'évêque en 21 aussi, et l'arrêt du roi en 1722 qui vraiment venait confirmer tout ça. Et c'est un document qui va avoir une portée jusqu'au 19e siècle, parce qu'on prévoyait la frontière des futurs districts quand il y aurait du monde. C'est toujours donc, vous aviez tel district, alors, sera desservi par voie de mission jusqu'à ce qu'il y ait assez de monde pour pouvoir faire subsister un curé. Donc, on prévoyait très loin, et une paroisse comme Saint-Jean-Port-Joli ou l'Île-du-Portage qui vont apparaître seulement dans la deuxième moitié du 18e siècle, ça va être basé sur les travaux et les résultats de cette fameuse enquête et de l'arrêt du roi. Donc, c'est extrêmement fascinant comme opération.
On le sent tout à fait dans vos paroles. La conquête, une quarantaine d'années plus tard, quand la Nouvelle-France devient colonie anglaise, quel est l'impact pour les paroisses rurales?
C'est un impact assez faible, il faut bien dire. Encore une fois, comme le régime seigneurial tantôt, tout ce qui était de l'Église et du clergé est resté un peu dans l'incertitude pendant quelques années. Encore une fois, ça va se confirmer en 1774, mais sur le terrain, on n'a pas vu une grande différence parce que les paroissiens n'ont pas été envahis par des vagues d'immigrants. Ça ne s'est pas du tout produit. Donc, finalement, le clergé est resté tel quel, mais avec les mêmes problèmes d'encadrement d'une population, encore une fois, qui n'arrêtait pas de grossir, et des effectifs cléricaux qui étaient passablement, qui étaient toujours faibles, mais encore une fois réduits parce qu'il y a des prêtres qui étaient retournés en France. Et là, on ne pouvait plus faire venir de prêtres de France. Et n'oubliez pas que l'évêque était mort pendant la conquête. Et tant qu'il n'y avait pas d'évêque, ça voulait dire pas d'ordination de nouveaux prêtres. Donc, ça pressait d'avoir la confirmation qu'on allait pouvoir nommer un nouvel évêque, parce qu'autrement, ça aurait été l'asphyxie du clergé carrément après 1760.
Oh,
Alain Laberge, la paroisse rurale, c'est un cadre administratif, mais c'est aussi un lieu spirituel. Donc, il y a différents rôles à une paroisse.
Effectivement. La paroisse, évidemment, a des bâtiments, elle a des terres. Bon, on pense à l'église, on pense au cimetière, on pense à tout ça. Souvent, il y a même quand même des terres agricoles qui appartiennent à la fabrique. Donc, la paroisse, c'est donc aussi une fabrique qui administre ses biens matériels. Hein, et donc, évidemment, le curé est un peu le patron de la fabrique avec les marguilliers. Donc, c'est un des rôles du curé, c'est de voir est-ce que la paroisse s'administre bien et soit et procède évidemment à la perception de la dîme qui était la base de du revenu des curés. Donc ça, c'était extrêmement important et évidemment, c'était quand même un enjeu de pouvoir parce que les marguilliers qui ne se laissaient pas toujours faire et il y avait beaucoup de il pouvait y avoir des tensions. Par exemple, quand il fallait déplacer l'église. Plusieurs des premiers bâtiments qui servaient d'église étaient souvent placés à des endroits pas très appropriés, comme à la rivière du Sud, notamment, ou à Vincelot aussi, à Cap-Saint-Ignace. L'église était trop près du fleuve et il y avait de l'érosion et il fallait déplacer l'église vers un lieu un peu plus... Et ça causait des problèmes. Il y a même eu des schismes de paroisses, pratiquement, où il y avait des habitants qui s'opposaient au déplacement de l'église, et ça va être des chicanes pendant des années et des années, là. Et là, l'évêque n'était pas capable de régler ça, c'était assez terrible. Il n'y en a pas partout, mais on en voit un bon nombre de ça, de ces chicanes-là. Mais l'église, c'est aussi un lieu spirituel, comme vous disiez. C'est bien certain que pour les populations de cette époque-là, hein, les gens vivaient en fonction d'un au-delà qui serait évidemment meilleur, où il y aurait récompense pour les bonnes actions faites en ce bas monde, ou bien sûr la punition dans le cas contraire. Donc, la spiritualité des gens, elle était réelle. C'était pas une spiritualité, évidemment, très, très intellectuelle. C'était une spiritualité souvent beaucoup de convenances, il faut bien le dire. Mais malgré tout, les gens vivaient sans l'ombre de doute dans la crainte de Dieu, comme on disait à l'époque. Et dans cette perspective-là, le curé était un élément social extrêmement important. C'était quelqu'un qui, finalement, vous voyait et confirmait et pouvait vous assister dans les différents passages de la vie, la naissance des enfants, le mariage, jusqu'à la mort, jusqu'au décès des gens. Donc, c'était un conseiller. Parfois, on ne s'entendait pas toujours avec lui, mais règle générale, on ne peut pas dire que c'était une guerre ouverte entre les curés et leurs paroissiens. Si ça l'était, ça était beaucoup sur des questions matérielles et sur le plan spirituel, ça allait assez bien. Et le paiement de la dîme, bien que toujours jugé trop réduit par les curés, il reste que ce n'était pas un enjeu. Dès qu'il y avait un curé qui donnait des services et qui les rendait convenablement, les gens ne se faisaient pas prier pour payer la dîme. Parce que ça apparaissait bien nécessaire.
Et l'église, comme bâtiment, se situe au milieu de la paroisse. Je pense que c'est le point véritablement central.
Effectivement. Et là, on a un peu comme une dualité, parce que les gens vivent dans une paroisse et dans une seigneurie. Il faut bien voir qu'il y a des seigneuries qui sont trop petites pour être une paroisse, parce qu'elles sont petites, les seigneuries sont de différentes tailles. Il y a des seigneuries qui sont trop grandes pour être une seule paroisse, l'île de Montréal, la Côte-de-Beaupré. Et il y a quelques seigneuries, il y en a seulement une dizaine qui correspondent exactement au territoire d'une paroisse. Donc, finalement, les gens sont loin d'être dans une seigneurie paroisse. C'est plutôt qu'ils ont toujours un peu les deux. Et évidemment, il y a toujours les deux pôles. Le pôle seigneurial, donc où est le manoir, tout ça, quand il finira par en avoir un, puis le moulin, et la paroisse, l'enjeu paroissial avec l'église puis le cimetière. Souvent, ça va être rapproché, mais pas toujours. Mais quand ça devient unifié, c'est évident que c'est l'église qui transparaît. C'est toujours l'église qui apparaît aux yeux. Quand on regarde encore aujourd'hui à vol d'oiseau, on voit bien, on voit autant de clochers. Ce sont des points de repère extraordinaires dans le paysage. Et voilà, donc l'église va être vraiment ce lieu communautaire de rassemblement dominical, évidemment. Bon, les hommes sortaient pour aller fumer puis pour aller jaser pendant le sermon. Ça arrivait. Bon, ça ne les rendait pas plus impies pour autant. Donc, c'était plutôt des questions. Alors, c'était un lieu social extrêmement important et évidemment par son architecture, des lieux très, très marquants dans le paysage.
Et vous liez constamment cimetière et église. Donc, parce que c'est à la fois le point de rassemblement pour les vivants et les morts.
Ah, tout à fait. S'il y a une communauté pour les vivants, il y a aussi une communauté avec les morts. Dans la religion catholique, ça c'est quelque chose qui est très, très réel. Les morts sont présents, les morts ont une action. Alors, on prie pour eux, on fait dire des messes pour eux, etc. On les implore de ci, de ça. Donc, c'est effectivement une particularité là, du paysage religieux de l'époque. L'Église avec son petit cimetière à côté et les gens aussi qui sont carrément enterrés dans l'Église, comme le Seigneur qui pouvait se faire enterrer en dessous de son banc. Donc ça, c'était assez, assez remarquable.
Et ce portrait de paroisse pour les campagnes, quand on pense aux villes, il doit y avoir des différences?
Ah bien, tout à fait, parce que là, les paroisses urbaines sont évidemment beaucoup plus populeuses, de un, hein, et elles ont évidemment aussi elles sont prestigieuses parce qu'elles ont des bâtiments, évidemment, d'une ampleur et d'un style bien très, très élaboré comparativement aux églises rurales. Et les paroisses rurales vont aussi avoir une grande emprise sur les banlieues des villes, ce qu'on peut appeler la ceinture périurbaine ou la banlieue rurale, parce que les grandes paroisses, Notre-Dame à Québec, même chose à Montréal, vont avoir des paroisses extrêmement larges, parce qu'en plus de leur noyau urbain, elles vont desservir par voie de mission des territoires extrêmement importants, extrêmement populeux, donc ce sont des paroisses très riches. En partant, ce sont des paroisses très, 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 très riches.
Alain Laberge, on en est déjà à la fin de cette seconde émission. Je pense qu'on va vous inviter une autre fois pour nous parler de la Côte-du-Sud sur laquelle vous avez travaillé, parce que ce serait tout aussi fascinant. Les gens qui voudraient aller plus loin, vous avez des écrits, vous avez collaboré à des ouvrages que vous pourriez suggérer à nos auditeurs et auditrices?
Oui, tout à fait. Bien, sur la paroisse en tant que telle, il y a ce magnifique atlas que je n'ai pas fait tout seul, là, qui est un atlas dans la série des atlas historiques du Québec, qui sont publiés par les presses de l'Université Laval. Là, c'est le Centre interuniversitaire d'études québécoises. Donc, celui de 2001 s'appelle La paroisse. C'est un condensé là, de cette institution au Québec depuis le début. J'ai écrit un petit bout là-dessus et plein d'autres.
C'est un très bel ouvrage et très intéressant.
Très bien illustré aussi avec des cartes, des photographies. C'est vraiment, on pourrait dire, la somme des connaissances à ce moment-là. Je le recommande beaucoup. Et sur le régime seigneurial, si on veut, il y a beaucoup d'ouvrages. Il y a des ouvrages qui traitent d'une seule seigneurie. Je dirais que le meilleur reste toujours, bien sûr, l'ouvrage de Louise Deschênes, Habitants et marchands de Montréal. C'est un livre qui a fait époque. Ça date quand même de 1974, mais c'est un livre marquant. Et parmi les influences pour mon intérêt de la Nouvelle-France, ce livre est sans aucun doute à placer parmi les influences principales que j'ai reçues. Il y en a d'autres aussi. Il y a le livre d'Harris, mais il est en anglais, sur The Seigneurial Regime in Early Canada. C'est très bien, ça date aussi. Donc, en fait, je vous dirais, on est prêt, on serait mûr dans l'historiographie pour une nouvelle synthèse du régime seigneurial. Je dois vous confier un secret, c'est ce que j'aimerais bien faire dans les prochaines années.
Vous avez aussi eu le temps d'écrire un petit article à l'été 99 dans Cap au Diamant, un petit article très simple, mais qui peut être une introduction intéressante, une révision de certaines choses dont on a parlé. La seigneurie milieu de vie des anciens Canadiens par Alain Laberge dans Cap au Diamant à l'été 99. Donc, Alain Laberge, merci beaucoup d'être venu pour ces deux émissions. Merci à Jonathan Martin pour la mise en onde et à Mario Blouin pour le choix musical.